VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 14 février 2020, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, l'armée est de retour dans la ville symbole de Kidal, d'où elle était absente depuis des années.
En Guinée, un adolescent de 15 ans a été tué par balière à Conakry dans des heurts avec la police.
L'Union africaine estime qu'il y a eu faible affluence aux législatives de dimanche au Cameroun.
Plus de 15 000 contaminations supplémentaires par le coronavirus a annoncé hier la Chine.
Ici à Washington, le ministre de la Justice, William Barr, critique publiquement les tweets du président Donald Trump sur le travail de son département.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, l'armée malienne est entrée hier à Kidal après 3 jours de route. Selon le patron de la MINUSMA, il s'agit là d'une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Correspondance de Kassim Traoré.
Après 3 jours de trajet, les premières unités de l'armée reconstituée quittant la ville de Gao pour Kidal sont arrivées à Kidal. Dès leur arrivée, elles ont été accueillies par le gouverneur de la région de Kidal dans le camp numéro 1 de l'armée malienne. Le trajet de Gao à Kidal a été sécurisé par l'MINUSMA. C'est pourquoi Mohamed Anadif a exprimé son entière satisfaction au mouvement signataire de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et le gouvernement de la République du Mali pour cette avancée qu'il qualifie de majeure dans le processus de mise en œuvre de l'accord d'Alger. Pour lui, le chemin qui reste à parcourir est certes long et les défis nombreux, mais avec cette détermination et cette confiance, le processus vers la paix connaîtra d'autres succès et l'MINUSMA y prendra toute sa part, a conclu M. Anadif. Ce détachement de l'armée reconstituée est composé de quelque 300 hommes. Il est commandé par le capitaine Mamadou Keïta et doit se déployer très bientôt dans la ville de Kidal avant le retour des autres symboles de l'État malien. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et nous reviendrons sur l'arrivée des soldats maliens à Kidal en seconde partie de cette édition.
En Guinée, un adolescent de 15 ans a été tué par balle hier à Conakry dans des heurts avec les forces de l'ordre. C'est ce qu'ont indiqué des proches et l'opposition qui manifestent depuis 4 mois contre un éventuel 3e mandat pour le président Alpha Condé. La mort d'Idrissa Barry, un collégien de 15 ans, porte à 29 au moins le nombre de manifestants tués depuis le début à la mi-octobre de cette vague de protestations qui a également coûté la vie à un gendarme, selon un décompte de l'AFP.
Les élections législatives et municipales de dimanche au Cameroun ont été marquées par une faible affluence des électeurs. C'est ce qu'estime l'Union africaine, citant ses observateurs dépêchés sur place pour le scrutin. Pour le moment, Yaoundé n'a livré ni résultat officiel pour les législatives, ni taux de participation. Précision de John Lyndon.
La mission d'observation de l'Union africaine a relevé une faible affluence dans une déclaration publiée le 11 février. Les élections législatives et municipales du 9 février se sont tenues dans un contexte de tension et l'absence de consensus entre les acteurs politiques, souligne l'Union africaine, ajoutant « Cela a pu affecter le caractère inclusif des dites élections et la mobilisation des électrices et des électeurs ». Aucun engouement particulier n'a été noté, ajoute-t-elle, sans donner d'indications chiffrées. Les premiers résultats des municipales sont progressivement publiés. À Douala, la capitale économique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, a remporté le scrutin dans les 6 communes de ce grand port, y compris l'unique mairie qui était gérée depuis 2013 par le SDF, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition. Jeudi, le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, s'est félicité estimant que le peuple camerounais a suivi massivement son mot d'ordre de boycott.
Au Niger, la justice a autorisé le principal opposant, Ama Amadou, à quitter la prison où il est incarcéré depuis près de 3 mois pour aller se faire soigner en France. Le point avec Jean-Roger Bion.
La justice a signé une autorisation permettant à Ama Amadou d'aller se faire soigner en France, a annoncé hier Issoufou Issaka, un des dirigeants du MoDem, parti d'opposition. Une source judiciaire a confirmé, précisant que l'ancien premier ministre est tenu de réintégrer la prison de Filenge dans le délai maximum de 15 jours. Âgé de 70 ans, Ama Amadou a été condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés. Il a déjà été incarcéré à Filenge en novembre 2015 à son retour d'un premier exil. En mars 2016, il est arrivé 2e à la présidentielle sans faire campagne. Il a déjà été autorisé à se rendre en France pour des raisons de santé. Il n'était plus revenu dans son pays jusqu'en novembre dernier. Depuis, il était retourné volontairement en prison et pourrait même quitter le Niger aujourd'hui pour la France. En août dernier, il a été désigné par son parti, le MoDem, candidat à la présidentielle de décembre 2020.
Signature hier entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la firme américaine General Electric d'un mémorandum d'entente sur des réalisations dans le domaine de la santé et de l'électricité. La signature a eu lieu en présence de Peter Pham, émissaire spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Le point avec Eddie Isango.
L'entente de près de 2 milliards de dollars porte sur deux domaines, l'énergie et la santé. Deux ministres congolais ont signé avec les directeurs généraux de General Electric pour l'Afrique francophone. L'entente sera suivie d'un accord plus élargi, mais la date des signatures n'a pas été révélée. C'est un pas de plus dans les nouveaux partenariats privilégiés conclus avec les États-Unis depuis l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir, a déclaré Peter Pham. L'envoyé spécial américain affirme espérer que d'autres investisseurs américains suivront. Déjà présent au Congo dans les domaines des réparations des barrages, General Electric devrait, avec la nouvelle entente, réhabiliter les turbines Dinga 1 et 2 en vue d'une production de 650 MW d'électricité pour les réseaux nationaux. La RDC négocie aussi avec General Electric pour des projets hydroélectriques de 1000 MW. Côté santé, les discussions portent sur près de 800 millions de dollars d'investissement dans les infrastructures.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine a annoncé hier plus de 15 000 contaminations supplémentaires par le coronavirus, un nouveau record dû à une nouvelle définition plus large des cas d'infection, dépeignant une épidémie plus grave que rapportée jusqu'à présent. Le point avec Abdourahman Dia.
Le ministère chinois de la Santé a annoncé hier 15 152 nouveaux cas et 254 décès supplémentaires. Il s'agit de loin des plus fortes augmentations journalières depuis le début de la crise en décembre. L'épidémie de coronavirus a déjà contaminé près de 60 000 personnes et fait 1 367 morts en Chine continentale. Pourtant, la veille, les autorités chinoises avaient fait état du plus faible nombre de nouvelles contaminations depuis près de 2 semaines. Les deux chefs du Parti communiste pour la province de Hubei, berceau de l'épidémie, et Wuhan, son chef-lieu, ont été limogés. Le Grand Prix de Chine de la Formule 1, qui devait avoir lieu à Shanghai le 19 avril, est reporté sine die. Ailleurs en Asie, le Japon a annoncé le premier décès sur son territoire suite au coronavirus. C'est le deuxième hors de Chine après celui d'un Chinois aux Philippines. Un navire de croisière est toujours en quarantaine près de Yokohama avec 218 personnes contaminées, 44 nouveaux cas. Pour la première fois, une quarantaine a été édictée dans une commune près de Hanoï au Vietnam. Et en Espagne, le Salon mondial du mobile de Barcelone, qui était prévu du 24 au 27 février, est annulé.
Ici à Washington, sortie du ministre de la Justice William Barr contre les tweets de son patron, le président Donald Trump, contre son ministère, son personnel et ses cas. Selon M. Barr, considéré comme l'un des plus fidèles alliés du président américain, ses tweets rendent son travail impossible. La veille, son département avait adouci les peines recommandées par ses procureurs contre un ami de longue date de M. Trump, un certain Roger Stone, reconnu coupable de mensonges au Congrès, de subornation de témoins et d'entrave à la justice. En réaction, les procureurs en question se sont retirés du cas. Le président Trump s'était plaint auparavant dans un tweet des sentences suggérées, mais selon M. Barr, son patron ne lui a jamais demandé d'intervenir en quoi que ce soit dans une affaire pénale.
Le Sénat américain a adopté hier une résolution visant à limiter une action militaire du président Trump contre l'Iran, mais pas à la majorité des 2/3 qui permettrait de passer outre au veto présidentiel. 8 sénateurs républicains se sont joint à l'opposition démocrate pour approuver cette résolution, 55 pour, 45 contre. Et cette résolution sera maintenant étudiée par la Chambre des représentants où elle a de grandes chances d'être également adoptée.
Les États-Unis ont obtenu une trêve partielle d'une semaine en Afghanistan pendant les pourparlers avec les talibans et espèrent qu'elle pourra conduire à un accord avec ces derniers. C'est ce qu'a annoncé jeudi à Bruxelles le chef du Pentagone, Mark Esper, au cours d'une réunion des ministres de défense de l'OTAN. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Maroc annonce le lancement d'un programme pour l'émergence d'une classe moyenne agricole prévoyant la création d'emplois au profit des jeunes. Ce plan doit permettre la mobilisation et la valorisation d'un million d'hectares de terres collectives et la création de 350 000 emplois au profit des jeunes. Il vise 350 000 à 400 000 ménages et la naissance d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Il permettra aussi de doubler le PIB agricole et les exportations. L'Égypte, dont le programme d'aide triennale du FMI s'est récemment achevé, a besoin d'une nouvelle vague de réformes pour dynamiser le secteur privé et accroître les créations d'emplois, estime l'institution. Celle-ci se dit prête à soutenir le pays de toutes les manières possibles. Elle est en discussion avec les autorités égyptiennes pour déterminer quel type d'engagement pourrait convenir mieux au pays. Le plan du FMI pour l'Égypte, qui s'est achevé en novembre dernier, a été efficace pour stabiliser l'économie du pays. Ce dernier a connu la reprise de la croissance, la baisse de l'inflation et la diminution des déficits budgétaires. Pour terminer cette minute éco, la NOC, la Compagnie nationale de pétrole de Libye, déplore la chute de la production à 191 475 barils par jour, alors qu'elle était de plus de 1,2 million avant le blocage des principaux sites pétroliers du pays par des groupes pro-Haftar le 18 janvier. La NOC estime le manque à gagner à près de 1,4 milliard de dollars depuis ce blocage.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Finale de la Super Coupe d'Afrique à Doha ce soir.
Oui, l'Espérance sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions, et le Zamalek du Caire, champion de la Coupe CAF, croise les crampons à 16h temps universel à Doha au Qatar. Pour ce choc entre les deux géants du continent, la CAF a précisé dans un communiqué qu'en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes passeront directement à l'épreuve des tirs au but. Par conséquent, il n'y aura pas de prolongation dans cette finale de la Supercoupe d'Afrique. L'année dernière, le Raja de Casablanca, avec à sa tête Patrice Carteron, a battu l'Espérance de Tunis de Moine Chabani à Doha dans cette même finale. Cette fois encore, les deux entraîneurs se retrouvent, Carteron étant entre-temps devenu le coach du Zamalek.
Des violences dans un stade font des dizaines de blessés au Maroc.
13 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans des jets de pierres, dégradation de biens publics, possession d'armes blanches et fumigènes selon la police. Les incidents ont éclaté à l'issue du derby perdu par le Raja Casablanca face à l'AS Far de Rabat 1-0 au stade Moulay Abdella. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des policiers pourchassant des supporters à la sortie du stade, des voitures saccagées, un photographe de presse le visage en sang, blessé au crâne, 19 véhicules de la Sûreté nationale, un camion de la protection civile, une ambulance et des voitures de particuliers ont été endommagées selon la police. Les mises en cause ont été placées en garde à vue.
Hakim Ziyech quittera l'Ajax pour Chelsea cet été.
Oui, l'international marocain quittera cet été l'Ajax Amsterdam pour rejoindre Chelsea à compter du 1er juillet 2020. L'Ajax a indiqué avoir conclu un accord de 40 millions d'euros avec le club londonien. Cette annonce met fin à des jours de spéculation sur l'avenir de l'attaquant de 26 ans qui a rejoint l'Ajax en 2016 en provenance du FC Twente pour un montant de 11 millions d'euros. Hakim Ziyech a fait sa rentrée lors de la victoire de son équipe à Arnhem 3-0 en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas. Après une déchirure musculaire à un mollet en janvier, l'international marocain, nommé footballeur de l'année aux Pays-Bas en 2018, a jusqu'ici disputé 160 matchs officiels avec l'équipe première de l'Ajax et inscrit 49 buts.
Odion Ighalo, isolé à cause du coronavirus.
Oui, l'attaquant nigérian recruté par Manchester United au mercato d'hiver en provenance de Chine s'entraîne à l'ECA depuis son arrivée en raison de craintes liées à l'épidémie de coronavirus. Le Time et le Daily Mail indiquent tous deux que le club a demandé à Ighalo de ne pas se rendre au centre d'entraînement pendant deux semaines pour ne pas risquer de contaminer éventuellement les centaines de personnes qui le fréquentent. Le joueur de 30 ans devrait rencontrer pour la première fois ses coéquipiers pendant le week-end avant le choc contre Chelsea lundi pour la 26e journée de Premier League. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Deux matchs seulement, Boston a battu LA Clippers 141-133 et Oklahoma City a battu la Nouvelle-Orléans 123-118.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, l'armée est donc entrée jeudi à Kidal, dans le nord. Kidal, ville symbole d'où elle était absente depuis des années et où son retour est censé manifester le rétablissement de la souveraineté de l'État sur le territoire. Le détachement vient de rentrer dans le camp à Kidal. Ils sont près de 300. Nous avons été escortés par les casques bleus de l'ONU. Tout s'est vraiment bien passé, a annoncé à l'AFP un commandant malien qui a requis l'anonymat. Idriss Fall a joint Sidi Mohamed Acharas, gouverneur de Kidal.
C'est vraiment un jour d'espoir et un jour de joie aussi pour les peuples maliens et pour la population de la région de Kidal. Le bataillon des forces armées maliennes est rentré à Kidal à 16h. Je l'ai personnellement accueilli à l'entrée de la ville et il a été installé au niveau du camp général Abdoulaye Soumaré. Ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun incident depuis le départ de ce convoi-là de Gao depuis 4 jours jusqu'à l'arrivée à Kidal. Il n'y a eu aucun incident. Ça s'est très bien passé. L'armée est bien arrivée à Kidal. Elle a été bien installée.
Est-ce qu'elle a été bien accueillie? Est-ce que, par exemple, leurs anciens ennemis qui sont maintenant dans la CMA étaient là pour les accueillir aussi?
Le responsable de la CMA n'était pas là pour les accueillir, mais leur retour est accepté aussi bien par la CMA que par les populations. J'ai échangé avec les responsables de la CMA qui m'ont dit que ce retour a été fait de façon tout à fait consensuelle et qui ne prêtait aucun problème.
Et on nous dit qu'avec ce retour de quelques 300 soldats, qu'il y aurait déjà même une force unifiée avec d'anciens rebelles qui ont déjà intégré l'armée. Qu'est-ce qu'il en est?
Non, écoutez, pour nous, c'est l'armée malienne. Les groupes armés ont intégré l'armée malienne. Et dès qu'ils ont intégré l'armée malienne avec les fanions de l'armée malienne, les insignes de l'armée malienne, les grades de l'armée malienne, nous, on ne parle plus d'anciens rebelles. Pour nous, c'est l'armée malienne. Ici, on dit que c'est l'armée nationale reconstituée. Voilà, donc c'est la terminologie qui est utilisée. Il n'y a pas de différence entre les anciens rebelles et les anciens des forces armées régulières. Il y a une nouvelle armée malienne reconstituée qui revient au nord du pays pour le sécuriser en accord avec les populations, en accord avec tous les acteurs.
Quelle sera la fonction de cette armée reconstituée à Kidal alors?
Je crois que c'est un processus qui se met en place petit à petit. L'armée, comme tout l'État, reprendra ses fonctions régaliennes progressivement sur toute l'étendue du territoire national. Ça se fera dans la négociation, dans la concertation, dans la recherche du consensus, de l'entente, mais ça se fera, ça prendra peut-être quelques temps, mais ça se fera. Donc la mission de l'armée, que ce soit à Kidal, à Tombouctou ou à Gao, c'est la même mission qu'elle a sur toute l'étendue du territoire national, c'est la mission de défense du territoire, de sécurisation des populations.
Sidi Mohamed Acharas, gouverneur de Kidal.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Nigeria, les islamistes armés ont multiplié les attaques ces dernières semaines dans le nord-est. Le président Muhammadu Buhari a été hué mercredi pendant son escale à Maïdougouri, où il était venu pour assurer que la sécurité va continuer à s'améliorer, selon ses propres termes, et ce au lendemain d'une attaque qui a fait 30 morts parmi les civils. Pour commenter ce climat d'insécurité, John Linden a joint le professeur Oudou Ayouba Abdoulaye de l'université Ahmadou Bello à Zaria, dans l'état de Kaduna.
C'est un problème très complexe. Quand Buhari est arrivé en 2015 avec un programme de renforcement de sécurité au Nigeria, bon, vous savez, à ce temps-là, Boko Haram était un peu partout. Il a réussi quand même à contenir Boko Haram dans l'état de Borno, vers Maiduguri. Mais le problème qui s'est présenté peu après, c'était les otages pris par Boko Haram, surtout les filles de Chibok. Il y a eu aussi un problème dans l'armée elle-même. Certains officiers, on a découvert, collaboraient avec Boko Haram, donnaient des informations à Boko Haram. Il y a eu tous ces problèmes-là. On découvre parce que c'est vrai qu'on n'a pas les faits exacts. On découvre que Boko Haram n'a pas été maîtrisé comme on l'aurait souhaité. Donc il y a des attaques un peu partout. Et là, la situation s'est empirée avec l'émergence du banditisme partout au nord du Nigeria, même en dehors du nord du Nigeria. C'est un problème d'insécurité générale. Il n'y a pas que Boko Haram, il y a d'autres organisations en Sahrou qui mènent des attaques. Et ça devient très compliqué, même pour le président.
Justement, lors d'une visite à Borno, le président Buhari a encore assuré que la sécurité va continuer à s'améliorer. Il avait déjà, et vous l'avez souligné durant la campagne, fait la même promesse. Visiblement, les résultats tardent à venir. Qu'est-ce qui fait problème?
Non, vous savez, pour le président, il n'y a pas d'autre issue. Il ne peut qu'assurer, rassurer la population que les choses vont s'améliorer. La vérité est qu'il ne maîtrise pas la situation parce que les chefs militaires sont un peu dépassés, hein. Il faut le dire, ils sont dépassés. Et pourtant, sur le plan logistique, hein, l'État a acheté des armes. Et maintenant, on ne sait pas. Même le président ne sait pas parce qu'on se rappelle une fois, il a dit qu'il n'était pas au courant que la situation était mal.
À votre avis, voilà. Est-ce qu'il y a lieu ou pas de faire appel aux contributions extérieures?
Je pense que le problème, c'est pas la tactique au sol. Le problème, c'est le renseignement. Je pense que le Niger n'a pas la capacité de renseignement. Il y a des choses qui se passent sans que l'État ne sache ce qui se passe.
Le professeur Oudou Ayouba Abdoulaye de l'Université Ahmadou Bello à Zaria, au Nigeria.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des responsables politiques et militaires du monde entier sont en Allemagne pour la conférence de Munich sur la sécurité. Elle s'ouvre ce vendredi pour 3 jours. Iran, Irak, Syrie, Libye, Hong Kong seront au menu des discussions parmi d'autres points chauds de la planète. Le point avec Lionel Gahima.
Les États-Unis ont envoyé une forte délégation à Munich. La présence du secrétaire à la Défense, Mark Esper, et du secrétaire d'État, Mike Pompeo, signalera un rejet par Washington des accusations de désengagement, estime Elizabeth Brough de Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité.
As we speak, actually, the US is...
Au moment où je vous parle, les États-Unis ont commencé leur plus grande manœuvre militaire en Europe depuis un quart de siècle, et cela mérite d'être signalé lorsque nous parlons de déconnexion ou désengagement des États-Unis vis-à-vis de l'Europe.
La plus grande épreuve de force de Washington sera probablement le dossier de l'Iran. Après l'assassinat ciblé du général irakien Qassem Soleimani au début de l'année en Irak. En représailles, l'Iran avait mené des frappes contre les bases américaines qui ont abouti à un tir accidentel sur un avion ukrainien à Téhéran. La tension est restée vive. Mais l'hôte de la conférence, Wolfgang Ischinger, espère que cette réunion offrira une bouée de sauvetage à l'accord nucléaire iranien, mal en point depuis le retrait des États-Unis.
Pour y rester et l'étendre à travers des négociations sur les systèmes balistiques, la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, l'Iran pourrait-il cesser de soutenir le Hezbollah? Ce seront des questions ouvertes et sans réponse.
Le meurtre de Soleimani a déclenché une réaction brutale de Bagdad à un vote au Parlement irakien pour demander le départ de 5000 soldats américains. L'OTAN envisage de reprendre la mission de formation des forces irakiennes pour combattre le groupe État islamique. Cette proposition est la bienvenue pour le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper.
Dans la mesure où l'OTAN peut compenser, cela nous permettra au fil du temps de ramener certaines de nos forces au pays.
Le conflit en Syrie continue de déstabiliser le Proche-Orient. Ankara menace Damas de venger la mort de soldats turcs dans les affrontements cette semaine. La spirale de la guerre en Libye est également en tête de l'agenda européen. Par contre, il y a un espoir de progrès dans les pourparlers de paix en Afghanistan. Les États-Unis et les talibans seraient proches d'un accord. Le ministre chinois des Affaires étrangères assiste à la conférence de Munich dans le contexte de l'épidémie de coronavirus, des manifestations pro-démocratie à Hong Kong et des efforts américains pour stopper la montée en puissance de la société chinoise Huawei. Par ailleurs, le soutien de la Russie aux rebelles dans l'est de l'Ukraine alimente encore les tensions avec l'Europe. Récemment, la France a appelé un réengagement avec Moscou. Elizabeth Broad du Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé dans la défense et la sécurité.
De nombreux leaders d'Europe centrale et orientale seraient très préoccupés.
Alors que les tensions mondiales sont au plus haut, les dirigeants du monde seront confinés pendant 3 jours dans un hôtel très luxueux du centre de Munich.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Pour terminer, et tous les amoureux du monde entier le savent, on célèbre ce 14 février la Saint-Valentin. Au Cameroun, pour donner un exemple, il s'agit d'une tradition bien répandue, surtout en milieu jeune, même si tous les Camerounais n'y adhèrent pas, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
La veille du 14 février, les rues de Yaoundé grouillaient encore de monde, ainsi que les supermarchés et les parfumeries, des lieux fréquentés par des jeunes et personnes âgées qui célèbrent la Saint-Valentin. Profitant de cette atmosphère, Antoine vend en bordure de route des fleurs pour les amoureux à Yaoundé. Une petite rose est vendue à 500 francs CFA et un gros bouquet de fleurs à 25 000 francs. Et la clientèle ne manque pas. Marie-Jeanne est mariée depuis 30 ans et est comptée parmi les inconditionnels de la célébration de la Saint-Valentin. C'est seulement au début des années 2000 que la célébration de la Saint-Valentin s'est répandue dans les mœurs populaires au Cameroun. Le 14 février est aujourd'hui une date très attendue, surtout par de nombreux jeunes. Ces dernières années, des sociologues et anthropologues camerounais dénoncent l'envers de la Saint-Valentin, notamment en milieu jeune. Ils pensent que cette fête encourage la sexualité précoce et d'autres dérapages au sein de la jeunesse camerounaise. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Thing he's found. If she
When a man loves a woman, Percy Sledge à Muscle Shoals. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console. Eh bien, notre ami Darrell Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.